Ben voilà, quoi, ben c'est 2h du matin, je sors des bras doux et chauds d'une jeune fille pour apprendre que c'est la guerre. Et ben voilà, le Vincent de Marseille. Salut à tous.
Je voulais laisser un message sur le répondeur de la Bastille-Suisse, parce que ce matin, je viens d'entendre des nouvelles, donc de la guerre, Monsieur Bush a fini par y arriver. C'était inéluctable, disait-on, mais maintenant c'est réel. Donc, il parle au nom de Dieu, et au nom de Dieu, il va commettre des crimes, et j'espère qu'un jour, j'espère être encore là, pour voir ce monsieur passer devant un tribunal, pour répondre de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'en avais tellement gros sur la patate qu'il fallait que je vous téléphone. Merci, au revoir.
George Bush devant le TPI. George Bush devant le TPI. George Bush devant le TPI. Serge, à Rennes.
Hélas, tous nos éminents spécialistes sont unanimes. Le moral des ménages est très bas ces temps-ci. Mais putain, qu'est-ce qu'ils peuvent être cons ces ménages quand on pense qu'il suffirait qu'ils écoutent Jean-Pierre Gaillard. Comme la bourse, il est euphorique, lui, Jean-Pierre. Hier soir encore, il faisait preuve d'un lyrisme triomphant. Il l'a dit, d'ailleurs. C'est historique, 18% de hausse en 3 séances. C'est du jamais vu. Ben oui, quoi. On le sait bien. Les marchés, c'est comme les ménages. Ils ont horreur de l'incertitude. Mais depuis 3 jours qu'on a enfin la certitude sur la manière dont va se régler la question de l'Irak, c'est un véritable enchantement de voir les marchés retrouver le moral. Alors moi, je dis, on devrait obliger les ménages à écouter Jean-Pierre Gaillard, ça leur permettrait au moins de comprendre à quoi ça sert la guerre. Et puis, si malgré tout ils ne comprennent pas, eh bien en définitive, les ménages, ils doivent savoir que leur morale, on s'en fout et contre-fou, puisque tout ce qu'on leur demande en définitive, c'est pas d'avoir le moral, mais c'est de consommer, juste ça, consommer. Comme ça, au moins dans le cadre de la mondialisation, ils sont sûrs d'être de bons patriotes. Ah tiens, j'y pense. Puisque la guerre, on va sûrement l'avoir en mondiovision, je te livre cette réflexion sur la différence qu'il y a entre un téléspectateur et une vache regardant passer les trains. C'est que la vache, elle tourne encore son regard. Allez, salut.
Quand la vieillesse raconte sa jeunesse, celle-ci la rattrape et toutes les deux marchent côte à côte, main dans la main, avec des souvenirs au quotidien. Monsieur Marcel, je vous salue, vous et votre âme d'enfant. Christian-Marie, clown en Auvergne.
Ah, merci à Daniel Bernès pour cette belle soirée. Vraiment, vraiment, merci pour cette heure. Longue manche, douce, magnifique, mystique, belle vie que cet homme de 92 ans. L'amour avec ses belles chansons d'autrefois, superbe. Merci encore à Daniel, ça fait du bien. Nathalie, 80 ans, j'ai. C'était magnifique. Merci encore. Au revoir.
Eh ben merci Nathalie, hein, 80 ans, vous êtes ravie, merci de vos remerciements. Message donc sur le répondeur de la Bastille, j'y suis, 01 56 40 37 37, c'est Marcel dont il est question, qui a fait un tabac, Marcel, hein, 93 ans, et on l'avait rencontré comme ça, au coin du répondeur, où il laissait des messages, et puis il en laisse depuis, puis vous l'avez... rencontré hier, sa vie, son œuvre, sa façon de voir les choses, de penser, etc. C'était très heureux. Aujourd'hui, ben voilà, l'orgasme approche, Bush va prendre son pied de guerre, et l'Irak est un couloir de la mort, des hommes, des femmes, des enfants irakiens vont être exécutés dans les heures et les jours qui viennent, et sur toutes les télés, on s'excite, on salive, on est bien au chaud, dommages collatéraux, armes intelligentes, faucheuses de marguerites, les bombardements d'abord, les opérations terrestres, ensuite, on voit des messieurs bien au chaud qui sont là en train de nous expliquer tout ça, est-ce qu'il faudra y aller au couteau, faudra-t-il faire usage d'armes de nettoyage, on ne sait pas, enfin, on est très 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 excités, le grand moment, le grand jour arrive. Qu'est-ce qu'on fera de ces morceaux de viande humaine encore palpitante? Eh ben, on mettra ça dans un hôpital, peut-être. Et dans les hôpitaux, ben, il y aura des gens pour réparer ça, et dont des infirmiers, dont des infirmières. Ça fait un lien pour le reportage d'aujourd'hui sur les infirmières de nuit. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur.
Dans l'émission de Là-bas si j'y suis, où il est question de schizophrémie avec Rémi et son psy, par Claire Auther, large place y est faite à Antonin Artaud, l'acteur. Dessinateur aussi et écrivain, notamment sur les œuvres de Van Gogh, On lui fait l'éloge d'un fabuleux dessin représentant un champ labouré avec, au loin, un village et le soleil. Il décrit cette encre en parlant d'or fondu sur les toits. C'est aveuglant presque, tellement c'est beau. Le livre s'intitule Van Gogh ou le suicidé de la société. Allez, ciao, c'était José de Bordeaux.
Voilà, je vous appelle au sujet de l'émission concernant la folie. C'est une émission qui m'a beaucoup touché pour différentes raisons. La seule petite chose que j'ai trouvée un peu délicate, c'était le jugement un peu peut-être en porte-pièce que vous avez eu à l'égard d'Antonin Artaud. Je vous dis ça pour une raison très simple, c'est que mon père était psychiatre donc pendant la guerre et s'est occupé d'Antonin Artaud pendant 2 ans à Rodez. Et bien sûr, lui a fait toute une série d'électrochocs qui, parce qu'il n'y avait pas autre chose, peut-être à l'époque où la médecine n'était pas ce qu'elle était maintenant, en tout cas la psychiatrie, ont amené éventuellement à progresser un tout petit peu, ceci avec beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en ce qui concerne les griffes des psychiatres, là je retiendrai votre attention sur le fait que c'est quand même un peu difficile. Merci Monsieur Mermet, au revoir.
Allô, ici Milena. J'ai réentendu avec émotion la voix d'Antonin Artaud, mais surtout celle de votre interlocuteur du jour. J'ai tellement partagé ce qu'il disait. J'ai admiré la culture et le vocabulaire de cet homme, la bonne définition des choses surtout. Il a fait une citation très importante que j'aimerais bien pouvoir transmettre à mes enfants. Cette citation semblait d'origine anglo-saxonne. La voici. Souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse. Il serait très important pour moi d'en connaître l'auteur. Si vous pouvez. Merci et bon courage pour la suite.
Alors l'auteur c'est Tom Robbins, je connais pas cet auteur, mais c'est un écrivain américain, effectivement, c'est une phrase magnifique. Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse. Il y a un auditeur qui nous a adressé un très beau document avec la voix d'Antonin Artaud, mais on voulait avoir les sources précise de ce document et l'auditeur n'a pas laissé ses coordonnées, donc s'il se reconnaît, qu'il ait la gentillesse de nous le faire savoir, ben voilà, sur le répondeur 01 56 40 37 37. Encore quelques messages et puis hôpital de nuit.
Bonjour, c'est un message démotivé de Toulouse. J'espère que je vais être claire. À Toulouse, 31 Kurdes sont en grève de la faim depuis samedi 8 mars. Décision grave, marque de désespoir à la suite de rejet de leur demande d'asile politique. Mercredi 12 mars, les forces de l'ordre les ont délogés manu militari du local qui leur avait été prêté. À nos yeux, la seule réponse à la détresse des Kurdes, victimes de la situation politique de leur pays et les premiers menacés par la guerre qui se profile, n'est pas la répression mais l'urgence de l'accueil et la protection politique durable. Le problème dramatique vécu par les Kurdes est exemplaire de la situation des sans-papiers qui souhaitent leur régularisation. Donc il y a un rassemblement mercredi 19 mars à 18h devant la préfecture à Toulouse. Pour tout contact, c'est le local des motivés. Le téléphone, c'est le 06 89 21 87 38. Vous pouvez envoyer des chèques en soutien financier. Plus d'informations sur les sites truc.abri.org et motivé-e-s.org. Merci.
Je suis Janine de Montfermeil. Je viens d'entendre une dame qui est scandalisée par la pub sur les belles-mères. Eh bien, écoutez, moi, dimanche dernier, mon gendre, on est resté bloqué dans le bois de Vincennes parce qu'il y avait beaucoup de monde et qui voulait nous faire prendre le soleil à sa mère et à moi. Et il a pesté un petit peu parce qu'il y avait de l'embouteillage. Bon, enfin, ça n'a pas été plus loin. Et puis le lendemain, quand j'ai entendu cette pub, j'étais en train de faire du ménage. Ça m'a fait rire, mais alors ça m'a fait vraiment rire de bon cœur. Et le soir, quand ma fille m'a téléphoné, je lui en ai parlé, elle m'a dit, bah, écoute, maman, moi, j'écoute toujours Inter, hein, je suis fidèle depuis des années, des dizaines d'années. Elle me dit, bah, écoute, maman, j'ai fait comme toi, qu'est-ce que j'ai ri, parce que j'ai pensé à Marc, qui râlait hier après-midi. Bah, écoutez, vous voyez, j'ai 76 ans, et ben, on n'a pas tout le même caractère. Moi, ça m'a vraiment fait rire.
Oui, bonjour, je viens d'entendre sur France Inter, au flash d'information, que Jean-Luc Lagardère resterait un exemple pour les jeunes générations. Je dois dire que mon envie de procréer vient d'en prendre un sacré coup.
Bonne fête Patrick, bonne fête papa. C'était un message de Cécile.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Sylvie Coma.
Flight number 2, arriving from New
York. Ici, il y a le labo. Là. En tout cas, ça fait, ouais, ça fait des petites lumières, des gros, enfin, des petits ronds. Oui, moi, j'aime bien, moi. J'aime bien, mais... j'aime bien les lumières dans la nuit.
Tu sens l'odeur de l'hôpital encore?
Ah oui, ça. Hélas. C'est une. On va monter par là. Non, c'est de l'autre côté, pardon. Ça, c'est une de mes premières sensations que j'ai jamais perdues. L'odeur de la maladie, c'est bon, c'est un mélange de pisse, de sueur, d'humeur, de sang, et d'excréments, enfin bref. Et tout ça, ça finit par s'imprégner. Il y a des odeurs qui collent à certaines maladies. Il y a des, quand je passe devant les portes, je sais de quoi il s'agit. Bon, je parle pas des cancers du côlon, parce qu'il y a des poches, et donc évidemment. Mais même des cancers, des voies génitales. Il y a vraiment des trucs, les foies, enfin, toutes les maladies ont des odeurs spécifiques. Et donc, quand on passe devant les portes, on sait ces choses-là, on sent. Il n'y a pas trop de télé. Et puis là, on arrive déjà à une heure où ils sont en leur premier sommeil. Souvent, les insomniaques, qui commencent à se balader. Alors ici, c'est un service de cité, hein. Donc souvent, dans ce service, ils sont très mobiles la nuit. Et ils bougent beaucoup, beaucoup. Ils ont besoin qu'on leur donne à boire, à manger, des petites choses comme ça.
Allez, entrez.
Bonjour.
Vous dormez pas?
Oui, non, puis là, j'avais envie de regarder si il y avait quelque chose. Ouais, vous savez, à l'accueil, mais après, il y a des boissons.
Oui, il y en a.
Mais non, oui, je vais pas arriver.
Vous avez envie de chocolat?
Oui, bon, ça. Donc, ça fait un peu vite, un couloir d'hôpital comme ça, en pleine nuit. Hein. Quand on se réveille, quoi, qu'on a mal ou quoi. Et c'est important qu'il y ait quelqu'un. Voilà, la journée, au moins, il y a des choses qui se passent, un minimum, même si c'est pas des choses agréables. La nuit, c'est... Ouais, c'est le moment le plus sombre, c'est banal ce que je dis, mais dans tous les sens du terme.
Je vais vous laisser.
Bonne continuation, et puis...
Bonne nuit.
Au revoir.
Vous avez déjà discuté avec lui la nuit?
Oui. Il y a, bon, son problème est essentiellement une impossibilité de s'adapter aux différentes trithérapies qu'on lui propose. Il est arrivé cet après-midi, donc là, il voit venir, si j'allais dire. Dans 2-3 jours, si on n'a pas trouvé les bonnes molécules pour à la fois soigner son sida et ne pas avoir ses effets secondaires, à ce moment-là, c'est la grande question. Et c'est là où il ne dorme pas et où il tourne, et là, c'est là où il faut être suffisamment, avoir les oreilles suffisamment en pointe pour entendre ce qu'ils ne disent pas.
La nuit écoute, la nuit limite, la mort est là, tranquille, têtue, avec ses sœurs, la douleur, ses frères, le désarroi, l'effroi, la mort est là, et elles font face à tout ça, des armées, en première ligne, désarmantes, mais au front, ultime, fantassin et ambassadeur de la vie. Parole de nuit aujourd'hui, infirmière. Métier de misère, faut être gay, on s'y habitue pas. Attention, chaque mot compte. Elles disent ça de toute leur âme, de tout leur cœur, de tout leur corps de femme vivante, rempart, ultime. La nuit ultime, chaque mot pèse son poids dans ces bouches vivantes, charnues, goulues, drôles de femme. Seule, face au mystère de la fin. Pas de grand discours la nuit, pas de certitude. Dans la nuit, il y a nu, on respire autrement. Oppression, réminiscence d'enfance, tout passe par là,
L'hosto, l'hôpital aujourd'hui, est devenu à la fois notre case départ et notre case arrivée. Les deux bouts du parcours, limites, et elles sont là. Hosto, t'arrives, t'es un numéro, on te traite comme une bagnole, à réparer ou à la casse. Oui, peut-être, mais écoutez ce qu'elles disent la nuit. La nuit de Bligny, hôpital de Bligny dans l'Essonne, à 50 km de Paris, à l'orée de la vallée de Chevreuse. Ici, la nuit, elles affrontent seules tout ça. Et on va passer cette heure avec elles, avec ses employés de la santé de la nuit, avec Sylvie Coma. Vous vous dites c'est terrible, c'est déprimant. Peut-être, mais je voudrais bien qu'on commence cette nuit, puisqu'il s'agit d'une nuit, avec en tête deux phrases. L'une des gares Morin qui dit « Ne pourrait-on dégeler une énorme quantité d'amour pétrifié en religion et abstraction, le vouer non plus à l'immortel, mais au mortel ?» Et puis, cette belle idée d'Albert Cohen qui dit que cette épouvantable aventure des humains qui arrivent, rit, bouge, puis soudain ne bouge plus, que cette catastrophe qui les attend ne nous rende pas tendres et pitoyables les uns pour les autres, cela est incroyable.
Alors là, je regarde chez qui on va. Bon, ça, c'est un patient qui a un cancer. Allez bien ? Ça va ? C'est bon ce que vous regardez ? Ouais. C'est bien ? Ça vous plaît ? Bon, je vous mets l'aérosol en route. On fait comme d'habitude, vous le posez à côté.
Oui.
Hein, vous pouvez bien l'arrêter en fait.
D'accord.
Voilà. 10 minutes, hein. Oui. À tout à l'heure.
Très bien.
Quelle heure qu'il est, au moins 10h?
Il est 10h20.
10h20?
Oui.
Ah, les gens, ça passe, hein.
Oui.
On a déjà la moitié de la nuit passée.
Oh, la moitié, vous exagérez.
Ah, vous, pour nous, oui, parce qu'on attend 7h, il nous secoue les puces. Ils m'ont trouvé une grosseur en dessous, là. Alors, je vais voir ce que c'est, je crois. Non, comme ça.
Et je vous ferme la porte?
Non, laissez-la ouverte, parce que j'étouffe.
Moi, la nuit dernière, la nuit, elle a commencé à 6 heures du matin, parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Quand vous toussez et puis vous crachez, c'est pas facile. Hein? Et puis je me suis endormi, puis ils m'ont réveillé à 8h. Ils se demandaient si j'allais me réveiller.
Qu'est-ce que c'est ces grands placards-là? Thèse, serviette, chemise, pyjama, oreiller, sac à linge.
On change les lits plusieurs fois par nuit, parfois. Donc, les patients qui se souillent ou qui transpirent.
Couches, absorbex, bavettes, crachoirs.
Il y a des petits chaussons, ils ont dû être oubliés par quelqu'un.
Non, là, il y a un trou, là. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, on va le débrancher. Il va s'arrêter. Vous voyez ? Comme ça, on peut remettre le masque bien en place, tranquillement.
Ah, j'ai bien oublié de faire la crevasserie pour pouvoir le mettre en route devant le lit, tout ça.
En fait, les patients veulent pas qu'on ferme leurs portes la nuit. Toutes les portes sont ouvertes, hein. Toutes.
D'ailleurs, ils le disent tous systématiquement. Doucement.
Quand on dort pas trop la nuit, on peut toujours se mettre la télé au ralenti.
Je vais t'essayer pour dormir.
Oui.
Pichon !
Il est long, votre couloir, dites donc.
Non, non, on va pas jusqu'au bout, là. On s'arrête à la moitié, ça fait... Je sais plus exactement, je crois qu'on a 50 mètres, hein, le couloir, à peu près.
Et donc, vous mettez combien de temps à faire vos 50 mètres ?
Oh, une heure et demie.
C'est long pour arriver au bout du couloir. Celle qui nous a donné envie d'aller à Bligny, dans cet hôpital de Bligny, c'est Anne Soliver, qui est infirmière. On l'avait rencontrée dans une manif, pour ne rien vous cacher, à Paris. Et elle est infirmière chef dans cet hôpital de Bligny. Et elle a écrit une thèse de doctorat sur la nuit de l'hôpital. La nuit du savoir, ou les valeurs de l'ombre. Elle publiera un livre sur ce thème-là la nuit. Et voilà, c'est cette nuit de l'hôpital qui se donne à entendre. Une nuit limite.
Ça sent encore Michon.
Ben, c'est normal, oui.
Donc Aline, c'est la surveillante, elle dîne ici comme moi d'ailleurs, enfin nous on dîne toujours ici, il y a les quatre infirmières et le médecin.
Et ici on est en
réanimation ici.
Et vous avez un petit Bordeaux là, il est un peu jeune mais il est bon.
On mange tous ensemble, mais on n'est jamais tous... Enfin, il y en a tout le temps un qui doit aller, et là, ben, pour le moment, il y en a déjà deux qui sont pas là.
C'est où il y a du persil? Donc je l'ai fait mijoter à petit feu très longtemps, ça doit devenir une confiture de poivrons.
C'est limite, hein. À ce temps-ci, moi, ça me donne pas faim.
Voilà.
Il y a quoi, là?
Une seringue électrique.
Ça permet de passer le médicament sur une petite vitesse.
Et qu'est-ce qu'il a, ce monsieur, là?
Ça, c'est un monsieur, apparemment, qui a été opéré d'un cancer de l'œsophage. Donc, on a intubé, ventilé pour l'aider à respirer. C'est le respirateur qui respire pour lui.
Ça veut dire que sans cette machine, il peut pas respirer tout seul?
Non. Non, il peut pas.
C'est intéressant.
Vous avez goûté le truc au concombre?
C'est le bruit d'Ariel suçant le boudin.
Ça, c'est une autre alarme.
Sandrine, l'attention du monsieur du 7.
Je vais remettre ça. Je suis obligée de vous attacher.
L'attacher au lit, quoi.
C'est juste les mains.
Donc il comprend pas tout. Alors c'est un peu déconcertant parce qu'on a vraiment l'impression, mais on l'a retrouvé dans son cas de partout. Pas possible. Et sa femme le vit mal. Et le problème, c'est que c'est pas elle qui passe 12 heures avec lui et elle ne se rend pas compte qu'il met sa vie en danger. Donc, mais l'attachage des mains, c'est un sacré problème. Mais même pour nous, hein, on se ferme. Enfin, on se ferme pas les yeux, mais c'est vrai que on n'a pas trop envie d'aller creuser là-dessus, hein. Allez, on repasse dans l'autre monde.
C'est des dattes, c'est pas des filles. Ben oui, c'est des dattes. Et là, il y a des pruneaux avec ton truc, il n'y a pas que des dattes.
Et non, sérieusement, goûtez ces dattes.
Attends, mais c'est pas des dattes, ça, c'est des pruneaux.
Oui, non, mais ça, regarde un peu, regarde ces figues. Et puis elles sont vraiment très bonnes.
C'est pas des figues.
Elle est con, hein.
Non, mais pas, ton cerveau s'abîme. Hein. Plus tu travailles la nuit, plus tu es fatigué.
Moi, je trouve que ce sont très graves, les ennuis. Mais la nuit, il n'y a pas la structure hiérarchique. Il n'y a pas ce carcan, il n'y a pas tous ces affrontements.
Toutes les contraintes annexes au vrai travail.
la somme de paperasse, le téléphone qui sonne tout le temps, les familles, et la visite des médecins, et les travaux à faire dans le service, t'as trois ouvriers. Enfin, il y a plein de trucs la journée, en plus du travail pur. La nuit, c'est supprimé, tout ça.
Et il y a une ambiance. La nuit, c'est propice à des confidences, c'est propice à une solitude, en tous les cas. Il y a des impressions que tu ne pourras jamais aller de jour.
C'est vrai que les malades, elles sont différents la nuit. On dirait que ce qui est... Ils vont à l'essentiel. Soit dans le bien ou dans le mal. D'abord, ils osent dire des choses parce qu'ils ont l'impression peut-être qu'on a plus de temps pour les écouter.
Ils ont la trouille de la nuit.
Il y a aussi ceux qui ont peur de mourir parce que je sais pas si statistiquement on meurt plus la nuit que le jour. Ou à l'aube, on meurt peut-être plus à l'aube.
Bien sûr.
On meurt plus.
Vous voulez un serment de vigne avant de partir à l'orange?
C'est bien ça, c'est la nuit essentielle, c'est la nuit propice. On passe d'un monde à l'autre, de la gaieté du corps de garde au désarroi, à la souffrance, au naufrage, à la mort, qu'il faudrait bien rapatrier, qu'il s'agit de rapatrier dans ce monde-ci. Comment peut-on continuer à euphémiser, à cacher, à mettre tout ça dans un ghetto, sinon de courir le risque de ne plus savoir que nous existons, tout simplement, de ne plus savoir penser. Et ces gens, ces infirmières, ces aides-soignantes ou soignants savent tout ça. Et toutes les nuits, pensent à ça, vivent ça, et nous rapportent ces mots. Surpris.
Où on va là alors?
Alors là, on va aller à Despeau, donc qui est un pavillon où les malades sont tous, quasiment tous, atteints soit de cancer, soit de sida. Et c'est le pavillon, je crois, le plus long où on va. Il fait 450 mètres de long. Voilà, tu vois, ici c'est l'accueil, et ça c'est le couloir des bureaux.
Quand exceptionnellement je trouve un malade qui traîne, on est deux fantômes. C'est vrai, il y a vraiment une histoire. S'il y a une seule personne, on la sent, et elle-même se sent. On est vachement important parce qu'on les remplace tous. Là, les colonnes d'eau, on entend aussi. Ça, c'est les bruits électriques.
Ça aussi, ça fait pour son parti sans fermer le robinet. Voilà.
Ça, c'est une des choses qui m'a toujours surprise. On a la sensation, nous, les gens de nuit, que les infirmières de jour, elles laissent les choses là. Elles ont l'impression qu'il n'y a pas de vie pendant qu'elles sont pas là. Et effectivement, on pose les trucs là, en vrac, on va les reprendre tout à l'heure, quoi. 12 heures plus tard, il y a les pots de café, donc c'est tout prêt pour demain. Voilà, donc là c'est des chariots chauffants.
Ça sent la soupe.
Ça, c'est garé là, on sent.
Et puis juste derrière, il y a un fauteuil roulant. Et puis derrière encore, il y a des bassines, des sacs pour le linge.
Il y a du linge propre, il y a des... Après, il va jusqu'au bout, alors il y a un virage. Quand on va au bout, là-bas, c'est vraiment le bout du bout. Hein.
On entend nos pas, on s'entend parler, des fois. Vous savez, les bruits sont doux, mais les bruits sont pas moins violents, pourtant. C'est-à-dire que si vous voulez, en passant près d'une chambre, bon, vous imaginez tout ce qu'il y a derrière, et c'est d'autant plus facile de l'imaginer que vous le vivez. Hein. Il n'a qu'à passer la porte pour savoir ce qui se passe, et... on veut pas ne pas être concerné par tout ça, si vous voulez. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui rêvent, il y en a qui cauchemardent.
il n'y en a pas un qui respire pareil, quoi. C'est chaque malade, même quand il dort, ils sont différenciés par leur manière de respirer. Alors parfois on est suspendu parce qu'on n'entend pas. Et bon, c'est ces moments-là quand on attend les yeux de la mort, par exemple. Alors parfois on vient 20 fois, 30 fois, et on écoute, et on attend, et on saisit à peine un petit souffle. Bon, on se dit, bon, c'est bon, ça va, elle respire toujours, quoi. Et on va faire un tour, et on revient, et on recommence.
On les entend quand ils se réveillent, parce qu'ils respirent pas de la même manière. Par exemple, ou bien quand ils souffrent, ou bien quand ils ont des problèmes, on les entend beaucoup mieux.
On a l'habitude de les regarder dans la pénombre. Donc on les... Voilà, on attrape des yeux de chat, dit Joël.
Ils meurent seuls la nuit, plus que le jour. C'est-à-dire que vous êtes là dans une chambre, vous savez qu'il va mourir, et ben vous avez une sonnette, vous y allez, vous revenez, il est mort. Ils choisissent leur moment.
Souvent, ils choisissent mourir. Quand on s'en va. Il attend que d'être seul pour partir. Enfin, c'est très rare qu'il meure avec nous, enfin, vraiment avec nous dans le sens, dans nos bras, quoi. Ça, c'est très très rare. C'est, enfin, la nuit. Parce qu'effectivement, on peut pas rester, puisqu'on est, enfin, quand on est seul, on peut pas rester à côté tout le temps, tout le temps, tout le temps.
60 ans, ouais. C'est quelqu'un qui tousse, là.
Et Bimba, c'est un service qui fait quasiment que des soins palliatifs, c'est-à-dire que qui n'a que des malades mourants, quasiment. Et donc là, il y a beaucoup, beaucoup de travail, quoi, parce que elle, mais elle rigole beaucoup.
Ah oui,
ça c'est aussi une des particularités de la nuit, le rire. Alors là, on va les écouter, attends.
À propos des plus poilus. Ils sont filmés sur les foufounes.
Qu'est-ce que vous faites?
On travaille.
On parle de quoi?
Ça va pas long, hein?
Soins palliatifs, zéro, gastro, neuro, soins de suite, court séjour, on fait tout, nous. C'est lourd, oui, très lourd.
Au début, quand j'ai connu ces cafetières électriques, ça me traumatisait parce que ça faisait exactement le même bruit quand un malade est plein de sécrétions et que la machine, alors ça fait exactement le bruit de la cafetière.
Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci. Et le voilà, c'est le monde de la nuit, d'un hôpital pas très loin de Paris. Ce que dit la nuit, ce qui se dit la nuit, les bruits, l'intensité, la tension portée au bruit, et donc automatiquement aux odeurs, aux parfums, et donc automatiquement aux idées, à la pensée, et donc automatiquement à la vie, à l'essentiel. La nuit essentielle, elle est parfois aussi dehors, on sort quelques instants.
Ici, c'est
le dernier. Ça pique.
Tu vois, alors ça, c'est l'envers du bâtiment.
C'est-à-dire de grands arbres.
Ça m'est tombé, donc c'est là. La salle de soins de Joël, c'est là-bas tout au bout. Toute petite lumière là-bas. Petite lueur. Tout le reste, c'est les malades, donc c'est éteint.
Ne pas perdre le nord, c'est manger, c'est bouffer, c'est tâter un Bordeaux pas trop frais, c'est évoquer les foufous plus ou moins poilus, et c'est écouter la nuit, la vraie nuit, pas celle de l'intérieur, celle de l'extérieur. Mais laquelle est la vraie? Intérieur, extérieur.
On l'entend au loin, la chouette. Normalement, il y en a une là qui vient là. Juste un grand arbre là, à gauche, et une juste qui se pointe là. Et elle semble.
J'ai entendu quelque chose bouger dans l'arbre là.
Elle n'est pas là ce soir.
Elle ne sent pas là.
Il fait trop froid.
Genre le vent est d'ouest.
Ouais,
attends, il fait froid.
Bon, moi je m'en vais. Je vais
faire mon tour de l'autre côté. Hein.
Tu vas faire un tour,
oui.
On verra peut-être tout à l'heure.
D'accord. Ça commence à nécroser sous les talons. On va juste la masser avec de l'huile de noyau.
On les connaît bien, donc on sait quand on qui on peut réveiller, pourquoi et bon. Qu'est-ce qu'elle a cette dame sinon ? Elle a une tumeur cérébrale. C'est une fin de vie d'une tumeur cérébrale qui flambe depuis le mois de décembre. Ça, on change un petit peu. Bon, on va pas la tourner parce qu'elle dort bien. Et comme ses fesses, ça va. Parce que la nuit dernière, elle a pas dormi. Elle a peur de mourir étouffée. Bon, ce qui est pas faux. Hein. Et ça se passera pas. Et ça, c'est bien. Alors, de la voir dormir comme ça, d'une traite, comme un bébé, alors c'est sensationnel parce que elle était très, très angoissée. Très angoissée.
C'est nos visiteuses.
Nous on mange pour changer.
Il faut pas bouger.
D'abord on a sorti la bouffe, on a fait le café.
Elles ont pas
non,
mais on ne mange. Là. Non, c'est pas arrêté. On n'a pas arrêté de travailler.
Des massages,
et d'un seul coup là on se pose et on a faim.
6h-10.
Ouais.
Oui, 6 ans, c'est un gros tour.
Plus les transmissions écrites.
Ah, bah, si, c'est toutes les, vous faites tous les poubelles.
Non, c'est les poubelles surtout. Après les poubelles, on est censé leur rendre le service propre et rangé. Parce que pendant 12 heures, on a le droit de laisser notre fouillis, mais à 7h30, tout est nickel.
Ouais. Après, on leur remet les choses dans leur ordre à eux. Même quand on change nos, l'étape de sens, Michel, hein. Ça tient pas jusqu'au matin.
Là, j'ai lavé
partout. Ouais. Je vais laver.
C'est traumatique.
Ah, le matin, c'est le super bâtiment, hein.
Merci. Ça, c'est la tâche du matin.
Ouais. Ouais, le matin, il faut aspirer. Et c'est vrai que c'est plus difficile à supporter le matin quand on est un peu nauséeux, qu'on a bu beaucoup de café.
C'est terrible, ces odeurs. C'est un métier de misère, quand même. Il faut être gay pour faire ce métier. Bon, allez, juste ici.
Et les poubelles, elles sont...
Ouais, depuis, on s'y habitue pas. Non, jamais. C'est marrant, hein, parce que...
Les odeurs?
Ah non, jamais.
C'est le pire. Dans mon métier, c'est le pire. Je pensais que ça allait disparaître et ça ne part jamais.
Les gens, il faudrait aussi être un peu plus sincère, même quand, par exemple, ils chient des fakes, ça fait partie des choses de la vie. La pisse, la merde, ça fait partie du jeu. Il faut les rassurer, leur dire que... les mettre en confiance et que c'est désagréable pour tout le monde, je veux dire. Mais si nous, on était dans le lit à leur place, c'était exactement la même chose. Mm-hmm. Pourquoi tu ris comme une baleine ? Quoi ? Tu pourrais dire Ariel, elle est embêtée là sous les fesses de... Ah non. Ariel, écoute, j'ai pas de cul. Alors tu...
Ben, il y a du duodème qui était collé. Les grumeaux, tu les retires comment ?
Les grumeaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas être normal quand on fait ce métier, je suis sûre. Puis regarde, elle y prend plaisir, hein. Mon Dieu.
Je Je vais mettre un pansement américain.
Ça, elle a besoin de parler, Ariel. Parce que c'est vrai que c'est chiant.
Comme quand les gens vont très mal, les malades qui parlent pas, les filles ont peur même de rentrer dans les chambres. Moi, je parle toujours. Quand les gens sont dans le coma depuis longtemps et que c'est lourd, et il y a des filles, elles peuvent plus, elles sont... Moi, je leur parle, je fais comme si je dis bonjour, au revoir, on parle. Parce que c'est drôle de rentrer dans une chambre avec un humain dans un lit et plus lui parler, quoi.
On décompense, là,
hein. Oui, là, c'est le matin, faut s'agiter déjà pour reprendre et puis voilà, c'est le ras-le-bol. Et effectivement, il vaut mieux que les gens ne nous entendent pas. Mais, enfin, je veux dire, c'est pas les mots qui comptent, quoi. Ça a aucune. Mais bon, en même temps, c'est ces mots-là qu'on a envie de dire.
C'est ce qui permet de faire le soin, quoi.
Voilà, exactement, de se taper ce genre de truc tout le temps, quoi.
Alors, la nuit?
Il est froid.
T'es tout blanc?
Ouais. Il est quelle heure? 6h15.
La nuit s'est bien passée, sinon, chez vous?
La nuit s'est bien passée, oui. La nuit a été calme.
On entend une télé.
Oui. Quelqu'un qui réussit pas à dormir.
Quelqu'un qui, effectivement, là, j'ai un patient qui est en fin de vie et qui a besoin de la télé toute la nuit.
Ah oui.
Mm-hmm. C'est une présence, hein, inévitablement.
Ils entendent du bruit. Il y en a beaucoup qui dorment avec.
Donc ils savent qu'ils sont encore en vie, quoi. Ils entendent du bruit.
Un de leurs derniers regards sur l'extérieur, bon.
C'est une télé en sourdine et bon, en plus la nuit, les émissions de nuit, c'est des émissions qui sont passées la journée, qui rediffusent. Donc, et ça ronronne, quoi.
Donc, il y avait de la neige, je me souviens. Et je me souviens, ça m'avait paru assez long quand même. Je voulais pas y aller, je lui ai dit attends, je vais trop tôt. Maman qui me disait, si, faut y aller.
Arracher quelque chose à la mort, du crépuscule à l'aube, la nuit règne en souveraine. L'aube naît de ce que la nuit cède sur sa noirceur. Elle est une concession de la nuit au jour, comme le crépuscule en est la reprise intransigeante. L'ombre est une petite métaphore de la nuit, qui s'installe dans le jour comme chez elle. La nuit peut surgir de n'importe où, comme pour signifier qu'elle seule, un jour, sera définitive. Qui écrit ça? Une infirmière, Anne Soliver, qui est là et qui nous fait découvrir les mots de la nuit limite, celle du moment où des hommes affrontent ce que la douleur fait aux hommes, ce que la mort fait aux hommes. Cette victoire toujours remportée jusque-là sur la mort. La mort est ce que la vie épuise.
On va faire l'aérosol tout à l'heure, ça va vous dégager. D'accord?
C'est flou. Je suis entre deux eaux.
Voilà, tout à fait. Ça représente. C'est bon, les angoisses du petit matin. Parce que c'est aussi souvent le petit matin que les patients décèdent. c'est aussi, ça correspond à une angoisse plus forte.
Comme s'ils avaient tenu toute la nuit et puis qu'épuisés, ils lâchaient au petit matin.
6h du matin, c'est le passage de la fin de la nuit, le début du jour. C'est une espèce de transition. Et effectivement, c'est la nuit, c'est calme. Donc, quelque part, est-ce que je suis déjà passée de l'autre côté? Vous voyez? Donc, bon, effectivement, c'est des patients que je passe voir régulièrement. Et dans la journée, c'est vrai qu'il y a une telle multitude, un tel bruit. Souvent, ils dorment beaucoup plus la journée, d'ailleurs, que la nuit. Parce que bon, ils sont le ronron de la vie, c'est le rythme des filles de jour avec le bruit que représente la journée, les passages rythmés par les horaires des repas, des visites, des changes, etc., des soins aussi. Alors que la nuit, bon, d'abord je suis toute seule, il y a des notions qui sont presque inversées. Donc ils restent plus éveillés la nuit, dans une espèce de demi-sommeil. Mais ce monsieur, c'est un monsieur, par exemple, qui encore il y a 2-3 nuits était encore très violent dans sa demande, qui sonnait beaucoup parce qu'en fin de compte, il avait toujours besoin d'être rassuré en permanence. Alors que là, bon, effectivement, le traitement a un petit peu changé aussi et il est beaucoup plus apaisé. On peut se dire qu'effectivement, la semaine prochaine, quand je vais revenir travailler, c'est pas évident qu'il soit là. Voyez-vous. Ça aussi, mais on rentre effectivement depuis le mois de décembre dans cette période difficile des fins de vie.
C'est l'hiver.
L'hiver. Oui. L'hiver, c'est, la nuit paraît plus longue. Ce métier-là, je crois qu'on le fait aussi pour vaincre ses propres peurs. On ne devient pas infirmière par hasard. C'est des peurs d'enfants, des peurs de la maladie, de la mort, de la souffrance, peur de manquer d'amour, manquer de. Et c'est vrai qu'ici, il y a un relationnel très affectif. De jour, je trouve qu'on a une relation plus collective. Voyez, et cette individualité la nuit rend la relation avec le patient, les patients, plus affective. On a plus l'impression de donner de soi et que le patient se rende compte, puisqu'il y a, c'est la référence, quoi. On est la référence de nous, parce qu'il y a vous. Voilà.
Difficile passage de l'aube. Je sais pas si vous vous souvenez. J'ai fait un reportage dans une maternité à Paimpol sur une naissance, tout simplement sur la chose la plus ancienne du monde, c'est-à-dire naître. Et la sage-femme nous expliquait comment l'aube était le moment où les femmes accouchent. Alors on voit, là on est vraiment, on tient là, et debout de la corde, c'est le petit matin où tout apparaît et tout disparaît.
Il y a une idée de tenir jusqu'au matin, hein. Ça me fait penser souvent à la petite chèvre de Monsieur Seguin. Et là, on va assister. Alors, ça va commencer à circuler. D'ailleurs, ça commence à circuler. Là, les femmes de ménage, là, parce que là, il y a un chariot qui n'était pas là tout à l'heure. C'est la trace de la femme de ménage. Et d'ici 5 minutes, elle va commencer à ouvrir les portes et on va geler. Tu veux qu'on aille jusqu'à la cuisine ?
Voilà.
Donc, ils sont en train de préparer le petit déjeuner.
Ça y est, ça s'active.
Ah,
les baguettes de pain.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Oui.
Salut Michel.
Bonjour, ça va bien? Les autres qui finissent le café, là, puis on rattaque.
Il faut la faire un café aux meufs de jour, là, autrement elles vont tirer la gueule.
Salut.
Elles sont toutes fraîches, hein.
Tu veux bien
bon.
Venir avec
toi? Bah oui. Bah ouais. Au revoir.
J'ai un petit coup de barre. J'ai un genou qui commence à me faire mal, mais c'est bientôt la quinine. Tu l'as déjà dit. Mais je crois que ce matin, je vais pas faire l'enfeu.
Oh. Ouf. C'est frais.
Oh là là. Ah, le bruit des voitures. Est-ce qu'on n'avait pas de talent?
Si vous avez peur de mourir, ben il faut cesser de naître. Celui qui a dit ça, écrit ça plutôt, s'appelle Ilippe. Certains se souviennent des dessins d'Ilippe, Y-L-I-P-E, qui s'appelait aussi Philippe Labarthe. Et ben cet immense artiste est mort samedi dernier. Et c'est une occasion d'évoquer... lui qui disait « J'aimerais me réincarner en avalanche », qui disait « Un ami est un ennemi avec qui on a conclu une trêve. Un jour, des cons se sont mis à plusieurs pour inventer l'eau minérale », et qui disait aussi « Qui a le cul entre deux chaises n'a plus besoin de chaises ». Un humoriste et un homme formidable qui date de ce temps de l'humour noir des années 50-60 et qui est peut-être l'ami d'amis qui me sont chers et que je salue. Reportage aujourd'hui, Sylvie Comara. Technique, Olivier Riotor et Christophe Goudin. Anne de Giaferi, Christophe Imbert et Coyenne Guyenne. Voilà la fine équipe de La Basse, j'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et Anne de Giaferi veut absolument que vous alliez voir Les Sublimes, un spectacle de Guy Alloucherie sur la bestialité du monde, actuel le 20 et 21 mars au Centre Léonard de Vinci à Fézin, près de Lyon. Et puis aussi Balkan Transit, une adaptation du texte de François Maspero qu'on avait reçu. Ça, c'est jusqu'au 30 mars à la MC 93 93 de Bobigny. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Un peu de réclame.